On me demande souvent, c'est quoi l'entrepreneuriat ? Bah pour ça, quoi de mieux que de demander l'avis à d'autres entrepreneurs ? Pour cette deuxième saison du podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat », vous allez découvrir sans tabou et avec authenticité les vraies coulisses des entrepreneurs qui se battent pour faire exister leur entreprise. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Et avant de démarrer, les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode. Salut tout le monde, très heureux, comme à chaque fois, effectivement, de recevoir, j'allais dire recueillir, non, ça y est, tu vois, c'est moi Cynthia, aujourd'hui, qui bug, qui bafouille. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Cynthia, c'est qui ? Cynthia Lucas. Cynthia, elle est auto-entrepreneur. Pâtissière, mais pas que, tu vas nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Moi, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui, d'une part parce que je suis un grand gourmand et j'aime la pâtisserie et encore plus les cookies, parce que je crois que c'est ta spécialité. Tu vas nous parler un petit peu du coup de ton parcours entrepreneurial qui est très riche, il y a beaucoup d'embûches, mais c'est un petit peu ça, hein, les entrepreneurs aujourd'hui, c'est pas lisse, hein, c'est pas comme le monde aujourd'hui sur Instagram, des vendeurs de trompettes qui te font croire qu'en 15 jours tu vas réussir. Non, tu vas nous dire ça, et plus en détail justement. En plus, je crois qu'on est tous les deux du même lien, quelque part, tous les deux siciliens, donc je pense que l'épisode va être assez chaud, notamment au niveau des discussions. Je suis très heureux encore une fois de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es ?
Salut Alexandre, bah écoute, moi je suis super contente d'être là aussi. Ça fait très 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 longtemps que je te suis, depuis que j'ai commencé sur LinkedIn. Je suis très fan de ce que tu fais et j'avais hâte de participer à ton podcast. Alors, donc, je m'appelle Cynthia, comme tu l'as dit. Je travaille en biscuiterie artisanale depuis à peu près 2 ans maintenant. J'ai 2 enfants qui ont 7 et 10 ans, Nicolas et Romain. J'aime ce que je fais. Je crois que je peux me définir comme ça aujourd'hui. J'aime vraiment ce que je propose. Je propose des team building en entreprise, je propose des biscuits pour les réunions et pour tous les temps un petit peu sympas dans les entreprises. Et puis voilà ce que je fais.
C'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Je pense que tu vas toucher beaucoup de monde qui sont un peu des gourmands comme moi. Mais avant de goûter à cette pâtisserie-là, pour revenir un petit peu sur ta carrière professionnelle, pendant 10 ans, tu as travaillé dans la communication, de ce que j'ai cru comprendre. Ensuite, tu es tombée enceinte de ton premier et puis tu as repris un poste quelques temps après, en pensant que c'était un super poste, que ça allait être bien, que ça allait être une nouvelle transition, entre guillemets. Finalement, tu t'es rendu compte que tu étais... pas forcément à ta place. Tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi. Et là, du coup, donc, tu connais la thématique du podcast. Tu as dit que tu le suivais notamment, donc tu sais ce qu'on va aborder. D'habitude, on aborde 5 premières fois. Là, on va en aborder 6 avec toi. Pourquoi ? Je ne me demandais pas. C'est juste, je ne fais pas de favoritisme non plus, mais c'est une question de feeling. Il y a plein de sujets à aborder et tu as un parcours tellement riche que je pense qu'on aurait pu en faire 10 ou 15. Du coup, la première fois qu'on va aborder avec toi, je fais la transition entre la communication pendant laquelle tu as travaillé 10 ans et là, ta première fois chez le psy. On attaque dur, on attaque fort. Mais pourquoi ? C'est parce qu'avec cette personne-là, avec ce professionnel, chez le psychologue, tu as du coup bâti une stratégie pour te redéfinir un petit peu professionnellement et aller vers cette reconversion qu'est aujourd'hui la pâtisserie, si tu peux nous en dire plus.
Oui, exactement. Alors moi, il faut savoir que, donc, comme toi, je viens d'une famille sicilienne. Mes grands-parents sont arrivés en Belgique pour travailler dans les mines à l'époque. Et donc, s'ils sont venus de si loin pour bosser dans les mines, bah, c'est pas pour que leurs enfants, leurs petits-enfants fassent de petites études et terminent à faire de la cuisine ou à faire de la coiffure. Il fallait absolument faire de grandes études, etc. Donc, j'ai commencé par faire des études de droit. Je me suis royalement plantée parce que c'était pas du tout fait pour moi. Ensuite, je me suis dit, oh, ben, j'adore le théâtre. Je vais faire des études de théâtre. Je voulais m'inscrire au conservatoire. Mais au conservatoire, il y avait plus de place. Je me suis pris trop tard. Je me suis retrouvée dans une école de mime. C'était absolument pas ce qui me correspondait. Et puis, je suis complètement paumée. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, ben, je vais me lancer dans la com. En me disant, bah, j'aime écrire, j'aime communiquer, allez hop, c'est parti, on se lance. Je fais mes études, je les réussis, je suis engagée sur mon lieu de stage. Je travaille d'abord pour une émission culturelle où je rencontre des artistes, j'ai beaucoup de contacts avec la presse, ça me plaît énormément. Et puis, restructuration budgétaire, je suis la dernière arrivée, on me propose un mi-temps, sauf que je viens de me marier, j'ai un prêt, donc bah non, je peux pas accepter ça. Donc je me retrouve à chercher un job, je me fais engager dans une grosse boîte d'assurance où bossait ma maman, en me disant bah je fais un peu n'importe quoi, et puis le jour où il y a un poste en communication qui se libère, eh ben ce sera pour moi. Je travaille, je bosse, je fais des trucs qui me plaisent pas, mais bon, c'est pas grave, j'ai un salaire, je paye mon prêt, c'est super. Je me pose pas trop de questions à cette époque-là. Et puis, un poste en com se libère. Et là, je tombe enceinte. Au moment où le poste se libère, je suis enceinte de un mois, je viens de le découvrir, et je me dis, bah, en fait, tu sais quoi, je m'en fous, je veux tellement avoir ce job que j'y vais. J'y vais, je me lance, je suis engagée, et puis au bout de quelques années, en fait, bah, y a plus de sens, quoi. J'écris, ouais, ça c'est super, c'est ce que j'ai toujours aimé faire, écrire, mais j'écris des contenus qui ne me ressemblent pas, qui ne correspondent pas du tout à mes valeurs, je me remets beaucoup en question, je ne suis pas du tout en accord avec ce qui se passe dans mon équipe, le fait d'avoir des enfants, ça m'a complètement remis, si tu veux, en question. Ça m'a permis de me poser les bonnes questions, justement, cette question sans, de se dire, bah, en fait, quand on se lève le matin pour aller bosser, on est censé être heureux. Or là, je ne le suis pas. Je pleure le matin en allant bosser, je pleure le soir quand je rentre parce que j'ai passé une journée harassante, je ne suis même plus disponible pour mes enfants, alors que pour moi, avoir des enfants... Enfin, c'était juste hyper essentiel dans ma vie. J'étais plus disponible pour eux. Donc, je me dis stop. Là, maintenant, il faut vraiment... je fais un burn-out. Et à l'issue de ça, je vais voir un psy. Un mec incroyable avec qui je discute beaucoup. On échange et il me dit, tiens, mais qu'est-ce que tu as envie de faire au fond? Et là, le vide, quoi. Je sais pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Il dit, ben, c'est peut-être le moment de se poser les bonnes questions. Et donc, en travaillant avec lui, je me lui dis, ben, moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'est que ben, j'ai des grand-mères siciliennes, donc j'ai passé ma vie dans les cuisines avec elles, à faire de la pâtisserie, à faire de la cuisine. Cette question de la transmission, elle est juste essentielle pour moi. C'est ce que je fais avec mes enfants, c'est ce que je fais... entre mes enfants et mes parents aussi, c'est cette histoire de culture familiale qui est très importante pour nous. Ben moi, en fait, j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours aimé la pâtisserie, c'est ça que je veux faire. Et ce psy me dit, ben alors go, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Et là, je suis complètement perturbée, je dis, ben attends, enfin, comment est-ce que tu veux que je me lance dans ta pâtisserie, j'ai pas de diplôme. Il dit, ben c'est pas grave, on va reprendre des études. Ok, donc je décide de reprendre des études de boulangerie, pâtisserie et traiteur. En même temps, je décide de divorcer, on vend la maison, je m'installe dans un appart avec mes deux petits loulous. Et c'est parti, je prends des cours du jour pour être sûre de pouvoir m'occuper d'eux le soir. Et à l'issue de, normalement, c'est 3 ans les études, au bout de 2 ans, ça va pas assez vite pour moi. Je dis, hop, il faut que je me lance. Donc, je passe le jury central pour avoir mon diplôme plus facilement. Et là, ça y est, je me lance, enfin.
Alors justement, tu te lances enfin et ça se voit qu'aujourd'hui, tu es dans la pâtisserie parce que tu as mangé une de mes premières fois. Donc, ça veut dire qu'on a déjà parlé de la deuxième avant même que je l'annonce, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas un souci, au contraire. Mais je voulais revenir justement chez le psy parce que parfois, on se dit bah, c'est un peu honteux d'y aller, ce n'est pas forcément une bonne chose. On n'ose pas en parler. Au contraire, il faut en parler. Et même quand tout va bien, c'est important d'aller voir quelqu'un pour... dire ce qui va, ce qui fonctionne, parce que des fois, ça peut aussi nous aiguiller sur d'autres choses et d'autres aspects de nos vies. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que lui, en général, les psys sont assez neutres, entre guillemets. Lui, il te dit clairement, mais pourquoi tu ne fais pas ci, pourquoi tu ne fais pas ça? Ça veut aussi dire, je pense, qu'il a su canaliser le personnage que tu étais, peut-être compris qu'est-ce qui t'animait réellement. Et en général, il pose des questions assez ouvertes pour comprendre vraiment ce qui nous touche, ce qui nous sensibilise. Toi, ça a été ça. Est-ce qu'il y a quand même eu un peu un temps de réflexion? C'est-à-dire qu'au début, tu te dis, bah non, je ne vais pas me lancer dans la pâtisserie. Comment je vais faire? Est-ce qu'il y a des moyens à avoir? Est-ce qu'il y a une stratégie à mettre en place financière, gestion de la comptabilité, quel statut choisir? Est-ce que tu t'es posé toutes ces questions justement avant de te lancer?
Alors non, il faut savoir que j'ai un profil très particulier, c'est que je suis très fonceuse. En fait, peu importe les conséquences, je fonce. Et bien souvent, je me prends des murs et je me les mange plusieurs fois d'affilée pour être sûre d'avoir bien compris. Donc des stratégies, il n'y en avait pas. à partir du moment où on s'est dit, voilà, on se lance dans la pâtisserie, bah, bim, je fonce, je suis sortie de son cabinet et je me suis inscrite. Il n'y a pas eu de qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Est-ce qu'il faut créer une stratégie business? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Non, absolument pas. Je me suis dit, je vais juste reprendre des études, essayer de trouver quelqu'un, parce que ça, par contre, j'avais très peur de me lancer seule. Donc, je voulais trouver un associé pour me lancer. Et c'est pendant mes études que j'ai rencontré une fille avec qui je me suis liée d'amitié et qui a monté ce projet de biscuiterie artisanale avec moi par la suite. Mais en termes de stratégie, non. À ce moment-là, je me pose aucune question. Je me dis, c'est ça que je dois faire. Je suis sur la bonne voie. Je me lance. Et puis, on verra par la suite. Et ce psy a eu l'intelligence de comprendre comment je fonctionnais et de faire un petit peu la câlinothérapie avec moi. Tu vois, c'est quelqu'un qui ne posait pas juste des questions ouvertes. C'est quelqu'un qui m'aidait, qui me poussait un petit peu dans mes retranchements. Et ça a été une très chouette expérience. J'ai eu plusieurs psys par la suite aussi, hein, parce que je pense que là, j'ai travaillé sur certaines choses. Et puis, il y a d'autres choses à travailler. Et il n'y a absolument rien de honteux à aller chez un psy. Absolument pas. Au contraire, je pense que travailler sur soi, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire, surtout quand on est entrepreneur.
Clairement, je te rejoins sur ça. Je reviens sur ta vision du coup avant de monter la structure où tu dis justement bah t'as pas forcément de stratégie, de plan financier, de vision à 2 ou 3 à 5 ans. C'est bien de le dire parce que la plupart du temps, beaucoup pensent qu'il faut faire peut-être des études dans ce sens-là, même si c'est toujours bon d'avoir des notions et des informations en matière de comptabilité ou en matière de gestion du personnel, gestion administrative, c'est toujours important et intéressant. Mais ce que tu montres aussi, en tout cas moi je fais partie de ces entrepreneurs-là, c'est qu'on peut apprendre sur le tas. On se prend des murs en général, et même quand on est hyper bien préparé, c'est pas pour autant qu'on va pas se manger des murs, mais en tout cas voilà, ça peut arriver effectivement de ne pas maîtriser un sujet et d'apprendre au fur et à mesure. Parce qu'il y a une grande différence entre un business plan et puis la réalité, c'est-à-dire là le business plan c'est la partie théorique, et la partie pratique, bah, c'est gérer de l'humain, c'est gérer des aléas, c'est gérer des problèmes avec des fournisseurs notamment. Du coup, on aborde cette deuxième première fois avec toi où tu as parlé de ton premier divorce, donc le papa de tes enfants avec qui, du coup, vous allez vous séparer. Et c'est pendant ce divorce-là que tu vas prendre ces études de boulangerie. On sait qu'un divorce et une séparation, en général, c'est pas hyper simple. Tu reprends tes études de boulangerie, donc tu as l'énergie pour un autre projet qui, j'imagine, est mélangé aussi à de l'inquiétude parce qu'il y a cette séparation à côté. Comment tu le vis à ce moment-là? Est-ce que tu es hyper motivé et quoi qu'il arrive, tous les obstacles qui vont se présenter à toi, tu vas les démonter? Ou au contraire, est-ce que tu as ces inquiétudes? Est-ce que tu y vas à ton rythme, à petits pas? Comment tu réagis à ce moment-là?
À ce moment-là, je vais tout démonter. Il n'y a plus rien qui m'arrête. À partir du moment où je suis décidée à faire quelque chose, je le fais à fond. Alors, mon divorce, je l'ai... c'est difficile hein, dans les cultures méditerranéennes de dire que tu vas te séparer de ton mari, surtout qu'en plus, moi, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais toute jeune. On s'est rencontrés pour la première fois, on avait 13 ans, on est devenus meilleurs amis, on s'est mis en couple, on avait 17 ans, donc c'est quelqu'un qui a fait partie, c'est une des personnes qui me connaît le mieux au final, et encore aujourd'hui, on est restés en très bons termes. Donc, quelque part, ça fait mal. Tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire pour l'annoncer, surtout à mes grands-parents? Je t'avoue que ça a été un terrible choc de ma vie. Comment est-ce que je vais faire pour leur dire? Et en fait, ça a été très bien pris par eux. Et à partir du moment où je leur ai annoncé ça, je me suis dit, en réalité, si eux le prennent bien, c'est go, c'est que c'est la bonne décision. Il n'y avait pas d'autre décision à prendre à ce moment-là. Quand ça va plus, ça va plus. Je crois qu'il faut avancer, il faut arrêter de se poser des questions. Et go, ouais, je me suis lancée sans me prendre plus la tête que ça. Au final, j'avais vraiment envie de changer. Et entre la Cynthia d'aujourd'hui et la Cynthia d'il y a quelques années, je t'assure que c'est un virage à 180 degrés.
Il y a une Cynthia, justement, nouvelle maintenant et qui a pris de l'expérience. Et puis, c'est des situations qui ne sont pas forcément évidentes, les divorces, les séparations, mais ça permet parfois de prendre des nouveaux virages, comme tu dis, et puis de se rendre compte que la voie qu'on prend, c'est une voie qui nous correspond mieux. Ça ne veut pas dire que notre vie d'avant nous correspondait un peu moins, c'est qu'on l'a vécu, c'est comme ça, et tu as vécu de belles choses aussi avec cette personne. Mais là, il y avait un tournant dans ta vie. Tu as su l'écrire notamment avec la reprise des études, notamment dans la boulangerie, avec cette rencontre aussi avec cet associé où vous allez monter du coup cette structure. Je n'ai pas dit le nom tout à l'heure, mais c'est Biscuit. Hein, c'est bien ça aujourd'hui, Biscuit.
Oui, Biscuit. Okay.
Et je ne l'ai pas dit non plus, tu es de Belgique. On peut te retrouver en Belgique. De quelle région du coup?
Alors moi, je suis de Bruxelles. Je crois que ça s'entend un petit peu à mon accent.
Légèrement. Non, légèrement. Du coup, avec cette première personne, sur cette troisième fois, on va aborder avec toi la première implantation, donc pour les cookies, c'est-à-dire le premier local que vous avez choisi. Comment vous l'avez trouvé? Est-ce qu'il y avait tout de suite une synergie entre vous? Est-ce que vous étiez assez d'accord? Il y avait une corrélation notamment dans la stratégie? Comment s'est vécu justement cette association et le choix de ce premier local?
Alors, cette association, elle se passait hyper bien, dans le sens où j'ai rencontré cette fille pendant mes études et on est devenues très, très vite hyper copines. Et je cherchais quelqu'un qui me ressemble pour me lancer. Donc, c'était quelqu'un qui était très fort dans l'émotionnel, etc. Donc, on avait vraiment un profil assez similaire. On a été accompagné par des structures d'accompagnement, vraiment de toutes parts. C'était très, très chouette. On a commencé d'abord par travailler dans un atelier qui était partagé. On s'est vite rendu compte que ça ne nous correspondait pas parce que moi, ayant des enfants en garde alternée, il y a des jours où je peux bosser très tard le soir puisque je ne les ai pas. Et puis, les jours où j'ai mes enfants, en fait, je suis maman avant tout. Donc, moi, je vais les chercher à l'école. Il est hors de question qu'ils aillent à la garderie, etc. Donc, c'était compliqué de travailler sur un lieu de travail avec d'autres personnes. Et donc, on s'est mis en quête d'un local qu'on a trouvé vraiment dans le centre de Bruxelles. On l'a complètement réaménagé, on l'a fait à notre sauce, on a fait un crowdfunding pour nous permettre de financer tout le matériel dont on avait besoin pour lancer la biscuiterie. Et voilà, installation nickel. Au bout de quelques semaines, c'était fait et on s'est dit, go, on se lance et puis... on vend aux particuliers, on va en faire une boutique, on a une très belle vitrine, il y a beaucoup de lumière. Moi, je suis quelqu'un qui adore la lumière du jour, c'est très important pour moi. On va en faire un atelier boutique, et puis en fait, on s'est rendu compte que les gens venaient pas, puis il y a eu le Covid, tout a fermé, on s'est réorienté complètement vers les entreprises, du coup, en se disant, si vraiment on a envie de gagner notre vie, c'est pas avec un particulier qui va venir t'acheter un paquet de biscuits par semaine que ça va fonctionner. Voilà. On n'a pas l'infrastructure pour, j'avais pas envie d'avoir l'infrastructure pour, parce que moi, ce qui me dérangeait dans la communication, dans ce que je faisais, c'était il fallait être productif. Ça, c'était très important. Productif pour avoir un bonus en fin d'année et ta productivité, elle est récompensée. Ici, j'ai failli retourner au burn-out une seconde fois parce que je me suis rendu compte que je produisais, mais il n'y avait plus de sens à ce que je faisais. C'est pas ça que je veux faire. Donc stop, on s'est retourné vers les entreprises en proposant des biscuits pour les réunions. Notamment.
Et c'est ça qui est fort, je trouve. On parlait de stratégie tout à l'heure. avoir une bonne vision, bonne gestion de la comptabilité, vraiment des choses prédéfinies qu'on va noter sur un papier. Je parlais du business plan. Il y a un truc que personne ne pouvait prévoir, c'est le Covid aujourd'hui. Une pandémie comme ça, tu ne peux pas la prévoir, même si tu as des experts, soi-disant, qui disent que c'est tous les 10 ans ou autre, peu importe. Il peut y avoir une crise financière, il peut y avoir la guerre, malheureusement, beaucoup d'autres choses qui font que tu as beau en fait, être précautionneux sur énormément de choses, il y a plein de trucs que tu ne peux pas maîtriser. Et quand je dis c'est fort, c'est dans le sens où vous réorientez votre stratégie. Tu en as qui se sont plaints pendant justement cette pandémie, qui disaient l'État ne nous aide pas, l'État ne nous aide, ne font pas ci, ne font pas ça. Alors que moi, je trouve l'État a énormément aidé, notamment avec la mise en place du chômage partiel, de certaines primes. Évidemment que ça n'a pas tout fait, mais en tout cas, c'est mieux que rien. Et dans certains pays, ça n'a pas été le cas. Donc je tiens quand même à le préciser. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as des gens qui vont se plaindre, qui vont dire que bah voilà, c'est la crise, c'est compliqué, on va fermer. Je dis pas qu'on a tous cette capacité de rebond. En tout cas, vous étiez deux, c'est peut-être aussi ça votre force à l'époque, et vous avez su vous dire bah on va changer. Aujourd'hui, on peut plus atteindre les particuliers, on va peut-être viser les entreprises. Forcément, on va avoir un gain de productivité plus important, mais aussi un gain financier beaucoup plus conséquent. Donc c'est plutôt bien. Et c'est ça que je voulais dire, c'est bien de se dire que tu as une stratégie, une vision de départ. Mais tu l'as fait adapter, tu l'as fait évoluer, c'est ça un entrepreneur. C'est pour ça ce que tu disais, c'est bah tu es une fonceuse, tu y vas from scratch entre guillemets, et puis c'est en fonction des opportunités ou des obstacles que en général tu réorientes par rapport à ce qui t'arrive dans la vie.
C'est complètement ça. Au départ, on voulait s'adresser aux écoles, donc on a fait vraiment des produits qui étaient adaptés aux enfants. Il y a tout un travail par rapport à mes produits. J'aime travailler avec les producteurs locaux, je mets un sucre vraiment de qualité dans mes biscuits, un sucre qui est non raffiné, parce que je ne sais pas si tu vois un petit peu les gamins qui bouffent du sucre raffiné, qui sautent dans tous les sens tellement ça excite leur petit cerveau, c'était juste pas possible. Donc il fallait qu'on propose quelque chose dans les écoles. Et puis les écoles ont fermé. Donc en fait, il n'y avait plus de possibilité. Alors qu'est-ce que tu fais ? Soit tu pleures sur ton sort, comme tu le dis, soit bah, tu es un peu résilient et tu te dis « Allez, go, on change de stratégie ». Et je crois qu'être entrepreneur, c'est ça. Et c'est ça ma force, c'est la résilience. C'est d'avoir pu changer de stratégie et à plusieurs reprises. Et ce n'est pas fini. Et le chemin est très long et les embûches sont toujours là. Mais cette capacité de rebond, elle est incroyable. Trouver l'énergie de rebondir, je crois que c'est vraiment ça qui définit l'entrepreneuriat aujourd'hui.
Complètement d'accord avec toi. Tu sais, dans le podcast, quand il y a un invité, bon, c'est gratuit, hein. On échange entre deux entrepreneurs. Mais là, je suis en train de me dire, je vais peut-être mettre en place une taxe. Je dis ça pourquoi ? Parce que tu es pâtissière de cookies, tu sais que je suis un grand fan. Comment faire pour recevoir une grande boîte de cookies à toi que je pourrais goûter et déguster justement prochainement ?
Eh bien, écoute, c'est pas compliqué. Tu m'envoies un petit mail, tu me contactes sur LinkedIn. Je suis assez active sur ce réseau depuis 6 mois maintenant. Et puis, je te l'envoie avec grand plaisir.
Tu peux livrer de la Belgique à la France, on est d'accord.
Je peux livrer de la Belgique à la France. Alors, il faut savoir quand même que pour les cookies, c'est plus compliqué dans le sens où je mets zéro conservateur, zéro colorant, il n'y a absolument rien.
Ah oui.
Donc, okay. Les cookies, ça a une date de péremption assez rapide. Par contre, tout ce qui est sablé, ben là, ça tient beaucoup plus rapidement, beaucoup plus longtemps. Donc, je peux te les envoyer.
Ça veut dire que dès qu'on les reçoit, il faut les manger. Compte sur moi pour ça. En tout cas, je le ferai. Et je plaisantais, bien évidemment. Je pense que je vais te commander des cookies, mais c'est moi qui paierai, évidemment. Pas de taxes entre nous. On reprend du coup le sujet de l'entrepreneuriat, même si je pense qu'on a fait saliver tout le monde avec tes cookies et on mettra l'adresse dans le post qu'on va mettre prochainement pour parler un petit peu de ton activité. Donc, tu es avec cet associé, vous avez trouvé ce premier local, vous avez su aussi réorienter un petit peu les choses, vous adapter, ça c'est super, c'est le maître mot aujourd'hui de l'entrepreneur. Finalement, après, avec cette personne-là, tu vas te séparer. Donc, c'est la première fois que tu te sépares avec cet associé. Alors, rapidement, voilà, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été quelque chose que vous avez senti venir? Et après, on verra un petit peu aussi pour les gens qui nous écoutent cette notion d'association. Est-ce que c'est mieux de démarrer seul ou avec quelqu'un, notamment?
Alors, ça a été très compliqué parce qu'on est toutes les deux très fusionnel, très dans l'émotionnel aussi. Moi, je t'avais dit que je cherchais quelqu'un qui me ressemblait et je ne crois pas que c'était le bon plan au départ. Ça s'est très mal passé parce qu'on n'avait plus du tout la même vision que moi. Cette espèce de productivité comme ça à outrance, c'était beaucoup trop pour moi et que je sentais mes propres limites. Moi, j'avais besoin de temps pour mes enfants. Elle n'avait pas d'enfants. Donc, on n'avait pas du tout la même vision à ce niveau-là. Moi, je te l'ai dit, mes enfants, c'est ma priorité. Je veux être là pour eux quand ils sont avec moi. Je vais les chercher à l'école. Et OK, il y a des commandes, je suis d'accord, mais je fais en sorte que mon travail s'adapte à ma vie de famille. Voilà, c'est comme ça. Donc, à partir du moment où on n'a plus cette même vision, on a décidé de se séparer. Et ça s'est très, très mal passé. On a fait appel à une médiatrice. Ça n'a pas été non plus. Et je crois que quand tu crées un espèce de bébé comme ça, ensemble, bah ça a été comme une séparation de divorce où tu dois partager un petit peu tes enfants. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au divorce. Je crois que c'est ça qui a été très compliqué pour moi, c'est que quand tu divorces, bah tu vois plus tes enfants à 100%. Ça a été quelque chose de très très dur. Et je pense que pour elle, ce qui a été difficile, c'est ça, c'est de se dire bah j'ai mis tout mon temps, toute mon énergie à créer un projet. Et puis là, en fait, je le quitte et puis stop. Elle continue son côté et moi, je me réoriente et je fais complètement autre chose parce qu'il faut savoir que en Belgique, il faut un accès à la profession. Je sais pas très bien comment ça se passe en France, mais il faut un accès à la profession pour être artisan, boulanger, pâtissier. Chose qu'elle n'avait pas. Donc, c'est moi qui avais fait les études. On avait la gestion toutes les deux, mais le diplôme en tant que tel, moi qui l'avais. Donc, elle ne pouvait pas reprendre Biscuit toute seule. Je l'ai repris moi, de mon côté. Mais ça a été très dur. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, on ne se parle plus. Et c'est quelque chose qui est très, très douloureux encore aujourd'hui. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Ça fait maintenant un an et demi. Mais c'est toujours aussi compliqué.
À toi qui es très portée sur l'émotionnel, j'imagine bien que ce n'est pas évident. L'idée, comme on en avait déjà discuté ensemble, c'est pas de s'attarder sur ça. Voilà, c'est des événements de rencontres professionnelles. Ça arrive, on fait des rencontres, ça se passe super bien. Puis après, ça peut couaquer. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à des personnes qui hésitent, qui ont envie de s'associer avec le recul que tu as aujourd'hui? Tu parlais un petit peu de profils similaires que vous aviez et du coup pas forcément complémentaires. Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, avec du recul, c'est ça qui est un petit peu fait que derrière, c'était sûr qu'à un moment donné, ça allait péter? C'est juste des suppositions, je ne sais pas, c'est ton avis. Et maintenant, avec ton recul, on a besoin aussi de comprendre. Qu'est-ce que tu dirais à une personne aujourd'hui qui souhaite s'associer ou à la Cynthia d'il y a quelques années, du coup, pour le choix du coup du futur associé, de la personne qui t'accompagnerait?
Je crois qu'il faut choisir quelqu'un qui est complémentaire et pas forcément quelqu'un qui nous ressemble. Et je t'avoue que je t'ai dit que j'avais besoin d'aller dans le mur à plusieurs reprises pour me rendre compte de mes erreurs. Là, avec mon compagnon, par exemple, on a très envie de nous associer. Voilà. Donc, lui a un bar à jeux de société. Moi, je propose à manger dans son bar à jeux. Et s'est posé très rapidement la question de « Tiens, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'associe ?» En plus, on est complètement… Mais là, c'est absolument à l'opposé l'un de l'autre. Je crois que si on a besoin de s'associer, ben, on a tout à fait le droit de le faire. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Si ça va pas, ben, hop, ça s'arrête et puis on peut continuer tout seul, on peut rebondir. Donc, en fait, j'ai plus peur. Je conseillerais, si on ne se sent pas, on ne le sent pas de se lancer seul, ben, oui, associe-toi, mais associe-toi pour les bonnes raisons. Ne t'associe pas juste par crainte de ne pas y arriver. Et puis, associe-toi avec une personne qui t'apporte quelque chose. Parce que si c'est un profil similaire, bah, au final, je vois pas trop l'intérêt aujourd'hui.
Ouais. Assez d'accord. Tu as parlé justement de cette nouvelle rencontre, cette rencontre amoureuse. On t'est sorti, t'es parti, enfin, t'es sorti, oui, il y a eu un divorce avec le père du coup de tes enfants. Ensuite, il y a eu cette séparation avec ton associé. C'est un petit peu ta renaissance quelque part. Tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureuse, je crois, super vite, ça se passe très très bien. C'est aussi à ce moment-là que tu te rends compte que t'es autiste Asperger, donc quelque chose que tu n'avais pas forcément détecté avant. Je crois que la personne que t'as rencontrée, lui aussi, l'est. Donc forcément, vous vous comprenez davantage. Parle-nous de cette renaissance, de cette fougue qu'il y a eu dans ta vie et qui du coup t'a fait du bien par rapport à un petit peu ce que t'avais vécu de moins sexy auparavant. Raconte-nous un petit peu de cette histoire d'amour. On est dans un podcast qui parle d'entrepreneuriat, mais on peut aussi parler d'amour.
Eh bien, écoute, je vais te parler de notre première rencontre parce qu'elle est assez cocasse. Donc moi, je viens de me séparer parce qu'entre le papa de mes enfants et cette renaissance, j'ai connu un autre homme. Je viens de me séparer. je suis dans le fond du trou, je dis plus jamais je tomberai amoureuse, c'est terminé, moi je suis indépendante, je veux plus du tout dépendre d'un mec, c'est terminé. Et une de mes copines me dit non, là maintenant on arrête de raconter n'importe quoi, on va t'inscrire sur un site de rencontre et puis tu vas voir, tu vas ne fût-ce que discuter avec des gens le soir, c'est sympa, t'es chez toi, tu t'ennuies, bim, tu discutes. Je l'écoute, je m'inscris et je tombe sur mon compagnon actuel, Nicolas, avec qui ça match très très vite, mais de façon très très fluide. J'ai jamais senti ça. Et sur un site de rencontre, en général, tu tombes pas que sur des profils hyper sympathiques. Et puis là, type très bizarre qui me dit oui, j'ai très envie qu'on se rencontre. Moi, c'est pleine période de fin d'année. Fin d'année, il faut savoir que je propose des cadeaux dans les entreprises. Donc, si t'es patron d'entreprise et que tu veux offrir des petits sachets pour tes employés, ben bim, tu fais appel à moi. J'ai de gros contrats à ce moment-là. Je lui dis, écoute, gars, moi, j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps de rencontrer qui que ce soit. Enfin, non, on doit attendre février-mars pour se rencontrer. Il dit, mais moi, j'ai pas envie d'attendre. Tu sais quoi? Je viens t'aider à la biscuiterie demain matin. Et je lui dis, attends, non? Il est hors de question que tu viennes m'aider à la biscuiterie. Enfin, on se connaît pas. Tu sais jamais sur qui tu tombes non plus sur ce genre de site. Et en fait, je sais pas pourquoi. Je lui dis, bah, tu sais quoi? J'étais tellement dans la mouise, honnêtement. Travailler toute seule, c'est vraiment très compliqué. Je dis, bah, tu sais quoi? Viens et puis on verra. Viens demain à 7h du matin. 7h du matin, il était là. Et en fait, je sais pas, c'est complètement bizarre, mais j'ai l'impression de le reconnaître. Non pas de le rencontrer pour la première fois, mais de l'avoir toujours connu. Tout est fluide, tout est facile, on se comprend. Et on comprend très vite qu'il y a un truc un peu particulier parce qu'on n'a jamais vécu ça, ni lui ni moi. Et puis, dans ma famille, quelqu'un se fait diagnostiquer autiste il y a quelques semaines auparavant et je dis à mon compagnon, bah, tu sais, t'as quand même des similitudes avec cette personne, t'irais pas passer des tests? Il me dit, oh, ben, à quoi ça sert de passer des tests? Je dis, ben, écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça me pose question et j'aimerais vraiment pouvoir t'aider à ce niveau-là. J'ai un peu le syndrome du sauveur. Il me dit, bah, tu sais quoi? Ok, mais alors tu les passes avec moi. Je dis, mais n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je les passerai avec toi? Je suis absolument pas autiste. J'ai absolument pas le profil, machin. Et puis, on décide de passer ces tests ensemble. Donc, on va chez un psychiatre, cette fois-ci, qui nous fait passer des tests. Et là, le diagnostic tombe il y a 6 mois. Et en fait, je comprends tellement de choses sur moi. Tellement de choses sur ce que j'ai vécu, sur la façon dont je réagis aujourd'hui, sur les crises d'angoisse que j'ai, qui sont terribles. Et quand t'es entrepreneur, avoir des crises d'angoisse et passer au-dessus, c'est vraiment très compliqué. Donc aujourd'hui, on arrive à se comprendre, bien qu'on soit complètement différents, dans le sens où moi, je suis très, très portée sur les émotions. Lui en est complètement coupé. Donc, intellectuellement parlant, il arrive à les comprendre, mais y a rien qui se passe au niveau émotionnel chez lui. Donc, c'est parfois pas évident non plus, hein, de te retrouver avec quelqu'un comme ça qui en est coupé, mais c'est hyper riche comme relation. J'ai jamais vécu.
Ouais, j'imagine. Vous êtes bien trouvé, en fait, quelque part. Et je voudrais qu'on revienne du coup sur, pour que les gens qui nous écoutent comprennent et se disent, mais concrètement, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça implique d'être autiste Asperger? Est-ce que tu peux nous donner plus de détails?
Alors, l'autisme Asperger, c'est très, très compliqué et je crois qu'il y a autant d'autistes que de cas différents. Je vais donc expliquer pour moi ce que ça signifie dans mon quotidien. Je fais énormément de crises d'angoisse. J'arrive à me conformer. Je suis un vrai caméléon, en fait. Depuis toute petite, je suis la petite fille sage qui réussit à faire tout ce qu'il faut, comme il faut, comme on le lui a demandé. Mais ça me demande énormément de travail sur moi. C'est pas naturel. Je suis très sensible aux sons, aux odeurs, aux lumières. J'absorbe très très fort les émotions des gens. C'est-à-dire que si je vais rentrer dans une pièce où il y a quelqu'un qui va se sentir mal, ça va me submerger. Et puis quand je vais rentrer chez moi, en fait, je vais être vidée de toute mon énergie parce que j'ai pris ce stress sur moi. Et ce qui me pose vraiment problème, c'est cette hypersensibilité, hypersensorialité et vraiment les crises d'angoisse. Il y a des moments où je sais même pas sortir de mon lit tellement je suis stressée et j'ai besoin de contrôle, j'ai besoin de cadre. Dès que qu'on sort un petit peu de mes habitudes, ça me déstabilise très fort. Et là, tu vas me dire, mais enfin, c'est complètement dingue. Tu fais de l'entrepreneuriat et puis tu me dis qu'en fait, tu as besoin d'un cadre. Ben, c'est ce que je te dis. Je suis un caméléon et j'essaye de me conformer. En fait, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je me suis toujours conformée à ce qu'on attendait de moi. Et c'est quelque part un système qui est devenu facile, alors qu'au final, bah, ça l'est pas du tout. Et apprendre à se connaître, je crois que c'est essentiel. J'aurais voulu le savoir avant, parce que ça, c'est la question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que ça aurait changé pour toi? Est-ce que tu vas faire diagnostiquer tes enfants? Oui, clairement, j'aurais voulu le savoir avant, parce qu'il y a plein de choses que j'aurais pu m'éviter. Maintenant voilà, on refait pas le monde. Et quand je dis à mes parents aujourd'hui, enfin les gars, il y avait des signes quoi. Enfin, comment ça se fait que vous n'avez pas vu ? C'est quand même fou de passer à côté de tant de choses. Ils disent ben voilà, à l'époque on faisait pas attention à ce genre de choses. Oui, ok, t'étais un petit peu spécial, tu sortais du cadre. J'ai jamais réussi à rentrer dans les cases. Moi, je lisais de la poésie à 6 ans et je pleurais sur du Louis Aragon. C'est vraiment un truc qui m'émeut très fort. J'écoute une musique et ça va me transporter et me mettre dans un état de mélancolie profond pendant une demi-journée. Donc voilà. Mais c'est très compliqué chez les femmes. Ça ne se décèle pas de la même façon que chez un homme. Donc, il y a plein de chouettes auteurs hein, qui parlent de ça, qui en parlent bien mieux que moi. Pour moi, c'est tout à fait nouveau. Donc, j'ai beaucoup, 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 beaucoup pris de renseignements par rapport à ça, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai des intérêts très, très spécifiques. Et quand je tiens un truc, je le lâche pas, quoi. J'ai besoin de tout comprendre, de tout analyser pour aller plus loin. Donc voilà, c'est une révélation qui m'a fait un petit peu peur au départ et qui aujourd'hui, en réalité, est devenue une richesse. J'essaye en tout cas d'en faire quelque chose de très positif.
Et j'ai l'impression que ce n'est pas que ça que tu essayes de faire, de le transformer en richesse. Tout ce qui t'arrive dans la vie, à chaque fois, t'en sors une expérience, t'en sors un apprentissage. Bon, là, c'est encore particulier, différent, effectivement. Comme tu dis, c'est une richesse. Et puis, je pense qu'il y a le film de ta vie après qui s'est déroulé quand tu as compris que c'était ça. Parce que tu t'es dit, ah, c'est pour ça que je réagissais comme ça. Ah, c'est pour ça que... C'est vachement bien aussi d'apprendre à se comprendre mieux davantage à ce niveau-là. Il ne faut pas hésiter à se faire tester, sensibiliser sur ça, ou que ce soit pour autre chose, l'hypersensibilité, parce qu'on n'arrête pas de dire, même sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, on a l'impression que tout le monde est hypersensible, parce qu'avant, ce n'était pas assez poussé, parce qu'avant, on n'était pas centré que sur soi. Il y a le développement personnel qui a émergé il y a une quinzaine d'années, et maintenant, on est vraiment sur le développement de l'être, de ce qui nous anime au quotidien, d'apprendre à mieux se connaître. Et on peut gagner des années, on peut gagner de belles relations en sachant que maintenant, si on fonctionne d'une certaine façon, on va être plus à même de traiter avec telle ou telle personne, même en amour, même professionnellement. C'est important de bien se connaître plutôt que à chaque fois, je pense, répéter les mêmes schémas. On arrive à la fin de l'épisode. Et tu sais, Cynthia, si justement tu écoutes le podcast, que je n'aime pas arriver à la fin de mes épisodes, ça veut dire que c'est la fin avec l'invité. Super parcours, super partage. On va aborder par contre avec toi une première fois qui est pas forcément très cool, très sexy. Moi, j'ai beaucoup apprécié ton profil, donc c'est pour ça que je t'ai demandé justement de venir et de partager, parce que je cherche pas que ceux qui ont réussi, qui gagnent des millions d'euros, qui ceci, qui cela. Et je dis ça parce que aujourd'hui, il faut le savoir, tu fais des choses, tu produis, mais tu ne vis pas encore ton activité, donc c'est aussi pour montrer que c'est difficile au quotidien. Et ce qui m'a touché aussi, c'est ton histoire. Puis après, en apprenant aussi à te découvrir, moi, j'ai appris quelque chose de pas très sexy qu'on va aborder ensemble et qui m'a particulièrement touché, parce que moi aussi je suis très sensible par rapport à ça, surtout quand je découvre au fur et à mesure les gens. Tu as appris du coup récemment que tu avais une tumeur il y a quelques mois. Donc tu l'as vécu pas forcément bien et ça a été délicat. Je ne vais pas en parler parce que c'est plutôt à toi de nous dire comment ça s'est passé, nous dire justement ce qu'il en est aujourd'hui, comment tu vois les choses à l'avenir, professionnellement, dans ta vie aussi personnelle, si tu es OK aussi de rentrer dans ce détail-là avec nous et nous dire un petit peu comment t'as perçu cette nouvelle.
Alors cette nouvelle, elle est tombée fin d'année. J'avais beaucoup de maux de tête, je me sentais un petit peu à côté de mes pompes en permanence, comme si j'avais des problèmes neurologiques, tout me glissait des mains, j'avais des problèmes de vision, des problèmes d'équilibre, je me suis dit voilà, c'est la fatigue, mais je vais quand même aller chez le médecin, on ne sait jamais. Je vais chez le médecin qui me fait passer une IRM et là, on découvre qu'il y a une masse qui se trouve juste entre les deux yeux. Donc, c'est un troisième œil. Et quand je vais avec Nicolas, mon compagnon, chez mon endocrinologue, parce qu'on prend rendez-vous très, très rapidement, tout se passe très rapidement, en fait. Le médecin traitant m'appelle en me disant, il faut absolument prendre des rendez-vous. Je me suis occupée de tout. Vous avez rendez-vous à tel et tel endroit avec tel et tel spécialiste. Je me suis dit, oh là là, purée, mais en fait, c'est un truc qui me dépasse complètement flippée, complètement angoissée. On va à ce rendez-vous. Elle nous dit, écoutez, on ne sait pas ce que c'est. On sait que c'est une tumeur. On sait que c'est très grave. Mais on n'en sait pas plus. Il faut faire des examens complémentaires. Les examens se passent très, très rapidement. Dans ce genre de cas, tu penses bien qu'on perd pas une minute. Et à l'époque, moi, ce qui me fait peur, c'est de savoir si c'est un cancer ou pas. Donc, je le lui dis. Je me dis, est-ce qu'il y a un risque que... Elle me dit, écoutez, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est grave, mais je peux rien vous dire de plus. Ok, on a un rendez-vous suivant, fait d'autres tests, je passe... par des dizaines de tests différents dans des machines où je suis complètement enfermée, moi qui suis claustrophobe et qui fais des crises d'angoisse. Les gens étaient hyper sympas parce que je me souviens d'une infirmière dont le fils était autiste aussi, elle est restée à côté de moi alors que c'est une machine qui est... il y a des rayons, quoi. Donc, elle me tenait la main, elle me caressait la jambe pour me dire « ça va aller, t'inquiète pas », donc super adorable. Et puis rendez-vous chez le chirurgien à l'issue de tous les résultats qui nous dit on va opérer très facilement, il s'agit d'un craniopharyngiome, on va passer par le nez, ça va aller très bien, très facilement, on prend rendez-vous pour un autre rendez-vous avec ce même chirurgien quelques jours par la suite qui nous dit non, ça ne s'opère pas. Ça ne s'opère pas parce qu'on ne peut pas passer par le nez, parce que c'est très mal placé, parce qu'il y a beaucoup de risques suite à cette opération, qu'il faut ouvrir le crâne et que vous risquez, alors que vous êtes très très jeune, de développer de la cécité, il y a un risque de mourir sur la table d'opération, tu vas développer du diabète, tu risques de développer des problèmes hormonaux très importants. Je fais « ok, et quoi ?» Alors donc, on fait quoi ? Il regarde mon compagnon, il lui dit « moi, si c'était ma femme, je refuserais qu'on l'opère. » Et donc, tu restes avec ça, tu te dis « ok ». Super, tout ça pour ça. Donc, je vis avec ce machin qui m'empêche de vivre parce que j'ai des maux de crâne impossibles, parce que je vois pas très bien, parce que je vois comme si je voyais au travers d'un microscope. Donc, j'ai des filaments comme ça devant les yeux en permanence. Ça m'empêche de travailler. On se rend compte que ce truc-là est là depuis plusieurs années parce que j'avais déjà passé une IRM il y a 9 ans et ce machin a grossi. On pense que c'est là de façon congénitale, donc depuis la naissance, mais on ne sait pas pourquoi est-ce que ça a grossi. Du coup, tous les 6 mois, il faut faire des tests pour voir si ça grossit. Si c'est le cas, il faudra opérer, on n'aura pas le choix. Mais là, en attendant, on laisse ça en l'état. Alors, stressée comme je suis, je me dis, c'est aujourd'hui qu'il faut profiter de la vie, quoi. La vie, elle est très courte. On ne sait pas de quoi demain est fait. J'ai des enfants merveilleux. Moi, je veux profiter d'eux. Alors, ok, je vis pas encore de mon activité. C'est compliqué. Je demande de l'aide sociale parce que ça ne va pas. Parfois, j'arrive pas à payer mon loyer. Mais purée, il n'y a pas que la biscuiterie dans la vie. Il y a aussi mes proches. Et donc, je sors de ce rendez-vous, j'appelle ma maman et je lui dis « Allez, go, c'est bientôt mon anniversaire, en fait. J'ai envie de partir avec toi. J'ai envie de passer des moments privilégiés avec les gens que j'aime. J'ai envie de profiter à 100% de la vie. » Et je me mets à partager ça sur LinkedIn. Et c'est assez fou parce que, tu sais, cette capacité d'écriture, ben, je l'ai développée très fort, que ce soit pendant mes études ou quand je travaillais dans cette grosse boîte d'assurance pour écrire des choses qui ne me correspondaient pas. Mais là, j'aime écrire, j'aime partager. Et le fait d'être authentique, je pense que ça rappelle aux gens que la vie, elle est vraiment courte. Et ça les fait réfléchir peut-être aussi à leur propre parcours et de se dire que c'est maintenant, les gars, c'est maintenant qu'il faut se secouer, qu'il faut vivre, parce que demain on ne sait pas ce qui peut se passer. Tu peux perdre un proche, tu peux toi-même être victime d'une maladie. J'ai vraiment envie de transmettre ça comme message. Il faut prendre soin de soi. Un boulot, c'est juste un boulot. Alors bien sûr, c'est mon bébé, Biscuit, c'est ce que j'ai créé, c'est ma réorientation professionnelle, c'est ce qui fait de moi, ça me définit en quelque sorte aujourd'hui, mais il y a tellement plus que ça, quoi. J'ai deux enfants merveilleux, je veux profiter d'eux, et peu importe ce qui se passe par la suite, je ne veux pas avoir de regrets. Et je voudrais que ce soit ça que les gens comprennent. Il faut vivre et il ne faut pas avoir de regrets.
C'est beau, c'est dur de parler après ça, d'essayer de rebondir et de trouver les mots justes, parce que forcément, on ne peut pas rester insensible. Je pense que je ne suis pas le seul à apprécier ton discours, à apprécier ce que tu dis. Et ce qui est assez fort chez toi quand tu en parles, c'est peu importe les coups durs que tu as, tu en tires des leçons, des enseignements aussi. Tu n'es pas en train de te lamenter sur ton sort, même si c'est des choses qui sont très, très difficiles. Donc, encore une fois, voilà, quand on commence à comprendre et à connaître un petit peu les gens ou même à s'attacher à eux, hein, on peut très bien être sur un échange professionnel avec quelqu'un, l'apprécier et apprendre ce genre de choses, forcément, ça fait mal, ça bouleverse. Et le message qu'on t'envoie, il est là, il est clair. Effectivement, c'est douloureux, c'est dur, mais je pense que tu n'as pas aussi envie de voir des gens qui sont en train de souffrir autour de toi. Tu as envie de voir des gens qui profitent de la vie, qui prennent le message et qui surfent sur ce message-là en se disant que voilà, dans la vie, il n'y a pas que le boulot. Dans la vie, il y a des choses essentielles, les proches. Effectivement, l'argent aujourd'hui fait tourner le monde et on en a besoin pour payer les charges et les factures. Mais on a aussi besoin d'amour. L'amour, ça fait tourner beaucoup de choses. Donc, ton message, il est fort. Il est très, très fort. J'espère que ça va donner de la motivation, de la niaque à certains, à ceux qui parfois se lèvent le matin et se disent voilà, aujourd'hui j'ai la flemme, ça me saoule. Là, on parle quand même de choses assez importantes et graves qui peuvent arriver aussi à n'importe qui, mais qui t'arrivent aujourd'hui. Donc, malgré ça, t'as cette force, t'as cette puissance de dire voilà, il faut profiter, il faut avancer. Donc, tu continues ton activité, t'es quand même dans la projection, tu fais plein de choses. Donc, rien que pour ça, déjà, bravo. Et puis, j'espère que tu enverras ce message positif aux gens qui nous écoutent, en tout cas.
Ben, écoute, j'espère aussi. J'espère vraiment. C'était très important pour moi de pouvoir le transmettre. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers mes posts aussi. Et quand je vois tous les retours positifs que j'ai en message privé, je me dis, mais waouh, c'est fou ce que la force de l'écriture peut faire. Et les gens me disent, non, mais c'est pas la force de l'écriture, c'est ce que tu transmets, c'est ce que tu... En fait, tu nous permets de réfléchir à notre façon d'agir, à nous remettre en question, et c'est vraiment essentiel aujourd'hui.
Complètement. On va essayer de se quitter sur des notes positives. Qu'est-ce que tu en penses? On change un petit peu le podcast, j'essaie un petit peu de changer par rapport à mes questions, que ce soit un petit peu moins orienté, si, entrepreneuriat, mais découvrir un petit peu plus l'invité. Donc, je vais te poser quelques questions, il va falloir que tu répondes assez vite, sans forcément trop réfléchir, et puis on va voir tes réponses et on va surtout voir si t'es une vraie Sicilienne ou pas. Les spaghettis, tu les coupes ou tu les laisses telles quelles?
À ton avis, évidemment que non, je ne les coupe pas et j'ai envie d'assassiner ceux qui les coupent.
On est bien d'accord. Merci beaucoup. Tous ceux qui mettent aussi de l'ananas dans les pizzas. Bref, ça, c'est encore un autre sujet.
Même combat.
Honteux, honteux. Cookies ou plutôt sablés? C'est un dilemme, ça, pour toi.
Ah, pour moi, c'est les cookies, très clairement.
Cookies?
Très clairement. Ah oui, les cookies. J'adore manger de la pâte crue de cookies. J'adore en faire un tas de trucs. Je trouve que le cookie s'adapte à absolument toutes les situations. Tu peux en faire des cornets de glace, tu peux les agrémenter de plein de trucs. Le cookie, pour moi, c'est génial. C'est vraiment génial.
Tu en fais au chocolat blanc, chocolat noir, tu fais un peu tout?
Ouais, je fais un petit peu de tout. J'en fais à cardamome, abricot, pignon de pin.
Stop, arrête, stop. Non, c'est bon. Je vais venir à Bruxelles. On va pas envoyer un colis spécial pour moi. Je vais venir parce que moi, je suis un gourmand. Je peux faire beaucoup de choses pour la nourriture, la pâtisserie. Bref. T'es plutôt film ou série?
Alors, là, je t'avoue que ça fait très très longtemps que je n'ai plus vu ni film ni série.
Ah bon? Pourquoi? Ah, tu es entrepreneuse, j'avais oublié, excuse-moi.
Ouais, c'est ça, c'est un petit peu ça. Je suis entrepreneuse et je suis maman solo. Donc, maman. Le soir, je suis très très occupée. Mais je dirais que je suis plutôt film.
Film? Ok. Au niveau des qualités essentielles qu'on doit avoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat, toi qui as du recul aujourd'hui par rapport à ton activité, sans forcément que ce soit quelqu'un qui va se lancer et faire la même chose que toi, c'est quoi les qualités essentielles selon toi avant de se lancer? Enfin, qu'on doit avoir pour se lancer, pardon.
Alors, pour moi, il faut être résilient, il faut bien se connaître, il faut pas avoir peur de demander de l'aide, se faire accompagner par des structures. Il faut être courageux et il ne faut pas se laisser démonter. Il faut vraiment avoir la niaque quand on se lance en tant qu'entrepreneur aujourd'hui.
Et quelqu'un qui pense qu'on peut gagner beaucoup d'argent rapidement, ce qui est vrai, on peut gagner beaucoup d'argent dans l'entrepreneuriat, mais rapidement, c'est un mot, je pense, qu'on peut bannir. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui?
J'ai envie de lui dire, montre-moi comment faire, parce que pour moi, ça n'a pas été le cas. Oui, il y a plein de gens, hein. Il y a plein d'exemples. Plein de personnes arrivent à gagner de l'argent très rapidement, mais en tout cas, dans mon secteur, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Surtout qu'en plus, moi, j'ai pas pour ambition de devenir la plus grande biscuiterie du monde entier. Moi, j'ai juste envie de m'éclater, de faire ce que j'aime. C'est ce que je montre à mes enfants. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez. J'en ai rien à faire que vous fassiez de hautes études si vous n'avez pas envie d'en faire. Faites ce que vous aimez et faites en sorte, quand vous vous levez le matin, de ne pas avoir à aller travailler. Si on fait ce qu'on aime, on s'amuse toute la journée. Et moi, quand je me lève le matin, tu vois, je suis de bonne humeur et je suis contente parce que je sais que je veux faire ce que j'aime.
Beau message. Et justement, un message que tu aurais envie d'envoyer à la Cynthia d'il y a 10 ans, ce serait quoi que tu aurais envie de lui communiquer aujourd'hui?
J'aurais envie de lui dire de ne pas avoir peur d'avancer, de se faire confiance surtout. Parce que je crois que je n'avais absolument pas confiance en moi. J'ai beaucoup travaillé là-dessus et je me dis qu'il n'y a que les limites que je me fixais. Et aujourd'hui, des limites, il n'y en a plus. Vraiment, je peux être qui j'ai envie d'être. Et c'est vraiment ça. C'est de se dire, on est capable de tout, on est capable de beaucoup de choses et on ne s'en rend pas forcément compte. Je me dirais de me faire confiance. Et je me dirais, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une bonne personne, un mail, un message, quelque chose sur ta route qui va te montrer que c'est le bon chemin. Je suis pas du tout croyante ou quoi que ce soit. Je crois que j'ai une certaine forme de spiritualité, mais à chaque moment de mon parcours entrepreneurial, il y a toujours eu un truc qui m'a indiqué que j'étais sur le bon chemin et qui me permet d'y rester. Donc j'y crois tellement à fond et c'est ce que je me dirais. Crois en toi, crois en tes rêves parce que tu peux réaliser de grandes choses si tu continues, si tu persévères.
C'est beau ce qu'on entend. Justement, maintenant qu'on est tous fans de toi, si on a envie de te suivre, si on a envie de t'envoyer un message, si on a envie de recevoir tes cookies, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux? Dis-nous tout.
Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn sous le nom donc, de Cynthia Luca, L-U-C-A. Et mon entreprise, c'est Biscuit, B-I-S-C-O-U-I. Prononcé donc à la belge, ma prof à l'école on avait un petit peu de mal à dire biscuit comme à la Et donc, elle disait biscuit. Et c'est grâce à elle que c'est en son honneur, en fait, que j'ai donné ce nom à mon entreprise. Donc, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Insta, mais essentiellement maintenant sur LinkedIn. Et puis, par mail aussi, toutes les informations sont sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds toujours par message, parfois un petit peu plus tard parce que, voilà, c'est pas toujours évident de pouvoir suivre, mais je réponds toujours.
Top. Et on espère que tu auras plein de messages, des gens qui vont s'intéresser à ce que tu fais, peut-être des messages aussi de soutien. N'hésitez pas à nous dire du coup si vous avez apprécié cet épisode, mais ne me le dites pas à moi, dites-le à Cynthia. Ça serait super pour elle, pour ce qu'elle produit, pour la valeur qu'elle a partagée. Donc un grand merci encore à toi, Cynthia, d'avoir accepté d'être dans le podcast. C'était très, très, très intéressant pour moi et surtout un vrai plaisir.
Eh bien, écoute, c'était un grand, grand plaisir pour moi. C'était une belle forme de réussite que de pouvoir participer à ton podcast parce que quand je me suis lancée, si je t'assure, quand je me suis lancée sur LinkedIn, je me suis dit, un jour, je serai dans son podcast. Et là, j'y suis. Et je t'assure que c'est un beau cadeau que tu me fais, honnêtement. Et je suis très, très fière d'être là aujourd'hui avec toi. C'est une belle fin.
Ça me touche beaucoup, mais en me disant ça, ça veut dire que waouh, c'est énorme d'être dans le podcast d'Alexandre Ferrero. Moi, je fais juste les choses parce que j'ai envie de partager mon expérience, ma valeur, et puis après, on rencontre de formidables personnes et on a envie aussi qu'elles soient présentes. Donc, ça fait un peu, ça me fait gonfler les chevilles, mais j'ai pas envie de trop qu'elles gonflent non plus. Donc, entendre ça, pour moi, c'est pas. Je dis pas que le podcast Mes Premières Fois dans l'entrepreneuriat sera pas grand un jour, il est déjà très très grand, ça gonfle en termes d'écoute et je suis super content, mais moi ce qui est important, voilà, c'est que les personnes se sentent bien, ils ont envie de partager, donc ça fait un peu bizarre quand tu dis que c'était un honneur entre guillemets, mais non, c'est plutôt un honneur pour nous d'écouter ton parcours et de voir la combativité que tu as malgré les épreuves, donc c'est surtout ça qu'il faut retenir aujourd'hui.
Ben merci beaucoup, ça m'a fait vraiment très très plaisir d'être là avec toi et de pouvoir échanger. J'espère avoir pu apporter de la valeur et pouvoir aider ne fût-ce qu'une seule personne qui écoute ce podcast.
Donc, on n'est pas sur la quantité aujourd'hui.
Voilà. N'hésitez pas à me contacter, même juste pour discuter de vos difficultés. Je le fais avec grand plaisir.
Avec plaisir. N'hésitez pas à la contacter. Encore merci à toi, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Et puis on se dit à très vite avec un ou une nouvelle invitée. Ce sera la surprise avec peut-être un cookie et un café pour fêter ça. Salut Cynthia. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.